Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Damien Hérault et j'ai invité aujourd'hui mon ami Azzedine Salek pour parler. Azzedine Salek, je connais depuis maintenant 5 ou 6 ans par le biais d'un très grand ami que nous avons en commun qui s'appelle Théodore Fivel. Et Azzedine est une personne vis-à-vis de laquelle je n'ai cessé de poser des questions, on va dire, ou que je n'ai cessé de questionner depuis que je la connais tellement, en fait, sa place, sa situation, ou bien alors son travail me semble ambigu, ou parfois flou, ou parfois difficile à cerner. Donc j'ai réussi aujourd'hui à le coincer dans une émission de radio qui va me permettre, en fait, de lui poser toutes les questions que j'ai eu envie de lui poser depuis que je le connais.
Oula.
Alors, Azzedine, on va commencer par le début. Azzedine, ton nom de famille, c'est Salek. Alors, est-ce que tu peux dire, pour nos auditeurs qui nous écoutent nombreux et ravis, évidemment, comment s'orthographie ton nom ?
S-A-L-E-C-K.
Voilà, ça c'est pour Google. Et puis ton prénom ?
A-2-Z-E-D-I-N-E.
D'accord. Alors, Azzedine, est-ce que tu pourrais, parce qu'on se connaît, on est ici à la radio, est-ce que tu pourrais te décrire physiquement un petit peu pour nous ?
Je mesure 1m60 quelque chose. Je pèse 68 kilos quelque chose.
Ouais, je confirme.
J'ai des jolies mains avec des ongles coupés courts.
Très vrai.
Et je chose du 42,5. Et j'ai les cheveux noirs et les yeux couleur caca.
Couleur caca, c'est vrai. J'ai remarqué aussi que tu étais toujours très peu rasé.
Bah oui, j'ai jamais pris cette habitude, parce que comme j'ai très peu de barbe, pour essayer d'en avoir et montrer que je suis adulte, je la laisse pousser beaucoup, ce qui me prend beaucoup de temps. Et donc je me dis que me raser, ça doit aussi prendre beaucoup de temps, donc je le fais très rarement.
D'accord. Alors Azzedine, est-ce que tu connais ton âge ?
Non.
D'accord. Donc, je ne vais pas poser cette question. Est-ce que tu sais où tu es né ?
Oui.
Ah, est-ce que tu peux nous le dire ?
À côté du Parc des Princes.
Ah putain, génial. Ça c'est du bol. Hein.
Ouais.
Ça c'est la destinée.
C'est voilà.
Ouais.
J'ai pas choisi.
Tu joues encore au loto sportif ?
Absolument.
Ouais.
Beaucoup, je perds beaucoup d'argent avec les paris sportifs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Et principalement le foot ?
Absolument.
D'accord. Jamais le basket ou la course de lévrier ou...
Seulement quand il y a des matchs en Afghanistan de basket féminin et des courses de lévrier en Thaïlande. Sinon, autrement, non. Je suis très focus sur le foot, que je suis persuadé de connaître très bien, alors que je le connais très mal. Mais comme j'ai besoin d'avoir un vice particulier pour perdre de l'argent, j'ai décidé de me consacrer exclusivement au pari sportif comme hobby dans la vie.
Alors tu sais qu'en France, on détermine les gens par les études qu'ils ont faites, hein, jusqu'à ce qu'ils meurent, en fait, la plupart du temps. Donc je ne vais pas te poser cette question quand même, qui est très, très banale ou très bête. Mais est-ce que tu sais à peu près ce qui, dans ta post-adolescence, a fait ton éducation ?
À peu près, oui. C'est la nuit. J'ai beaucoup été éduqué par la nuit et par tout ce qui se passe pendant la nuit. Et c'est la principale source d'éducation. D'ailleurs, pas à partir de la post-adolescence, à partir de la pré-ado jusqu'à aujourd'hui.
Mais est-ce que c'est la nuit quelque chose qui te fait évoluer encore aujourd'hui ?
Oui. C'est pour ça que je dors très peu. Et que je vais mourir très tôt, parce que je dors très peu.
Alors, Azzedine, qu'est-ce que tu fais, en fait, le jour ou la nuit, ou entre les deux ?
Plein de choses différentes et intéressantes et moins intéressantes.
Tu peux dire les deux, hein,
okay.
Même les moins intéressantes.
Alors, je fais du travail comme les gens qui travaillent et qui sont payés. Donc, je fais de la sculpture et de la décoration. Et de la... quand je fais ce que j'aime et quand je fais pas ce que... J'aime. Je fais pas grand chose. Et sinon, quand je fais ce que j'ai envie de faire, c'est j'écris des choses.
Tu écris des choses?
Oui.
Alors ça sonne un petit peu, comment s'appelle cette émission là, cette ancienne émission du dimanche après-midi de Jacques Martin.
L'école des fans.
Mais voilà, c'est un peu l'école des fans. Je te demande pas si tes parents sont dans la salle, hein, évidemment, mais ça pourrait être une autre question.
Mais ils le sont.
Je dirais qu'on est dans une...
Papa, salut. Il est là. Génial. C'est d'ailleurs parce qu'il est là que je dis que des conneries. Hein. Je suis vraiment désolé. Ta présence minime.
Que tu es obligé de dire que tu gagnes de l'argent et ouais, que tu le dépenses.
Je gagne de l'argent. D'ailleurs, je te remercie de ne pas avoir posé la question des études parce qu'il aurait été très fâché. C'est la grosse angoisse de ma vie. Il est très. Et c'est la sienne aussi, je crois. Donc, du coup, je te remercie de ne pas avoir posé cette question.
Mais malgré ce rapport un peu conflictuel au texte, ou bien grâce à ce rapport conflictuel au texte, si j'ose dire, tu viens de nous dire à l'instant que tu écrivais. Justement.
Oui.
Alors, qu'est-ce que tu écris?
Par exemple, j'ai écrit un poème pour essayer de gagner le Grand Prix de la poésie de la RATP.
Ça, c'est très drôle. J'allais te poser la question directement.
J'ai
parce
pas
que
gagné.
Tu n'as pas gagné?
Et c'est un scandale.
Quelle injustice.
Et c'est vraiment un scandale. Quoi.
Est-ce que tu connaissais les membres du jury?
Oui, je connaissais la présidente du jury. Elle, c'est une actrice. Enfin, je la connais. Je me suis renseigné sur son pédigré. C'est une femme qui s'appelle Zabou Breitman, qui est une actrice de films de France.
Oui, qui a fait quelques érotiques pas mal au début des années 80 aussi.
Ah, ouais. Voilà ce que je ne savais pas sur elle. Voilà, c'est ça. Je savais bien qu'il fallait que je laisse le partie Q de mon poème.
De SF, ouais.
Voilà, donc ça, c'est la présidente du jury qui ne m'a pas fait gagner. Putain de concours. Je suis très fâché.
Alors, c'est une grande tradition pour les Parisiens de faire des poèmes sur Paris. Paris, c'est un peu une muse pour tous les poètes de la ville.
Absolument.
Ce qui est à la fois un piège et à la fois quelque chose à détourner, on va dire. Hein. C'est la tradition baudelairienne, hein, des paysages, des décors, des passants, etc. Et est-ce que tu te souviens de ce poème ou de cet haïku que tu as écrit sur Paris?
Non, je m'en souviens plus, non. Je m'en souviens plus, mais je... Mais en fait, c'est un poème que j'ai publié une fois avant. Mm-hmm. Et que j'ai fait plus consensuel et métropolitain possible. Et parce que c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai vraiment fait un effort pour gagner ce concours, quoi. Et j'ai lu des poèmes dans le métro, quoi. J'ai lu tous les poèmes qu'il y avait sur les murs, sur les pancartes là, dans le métro et tout. Et j'ai vraiment travaillé, quoi. Et ça n'a pas marché. Mais ça parlait effectivement de Paris. À l'origine, c'était un espèce de poème sur le viol, quoi. Genre, enfin, une espèce de drague un peu violente qui s'est transformée en un poème sur l'amour de Paris la nuit. Mm-hmm. Et qui était très mignon, sympa et tout. Et ça leur a pas plu.
Tu as vu le poème qui a gagné?
J'en ai vu plein. Ils sont actuellement dans le métro. Et c'est pour ça que je vais prendre le métro souvent pour m'auto-flageller et voir le André Renoir, le moine de 53 ans dans le Puy de Dôme qui a gagné en faisant un poème, quoi. Donc c'est d'ailleurs mon prochain alias pour l'année prochaine.
André le moine Durand de...
Voilà, André le moine Durand, 53 ans, Puy de Dôme. C'est comme ça que je vais m'appeler l'année prochaine pour gagner ce concours.
Et tu fais aussi des sculptures pour toi-même?
J'ai fait aussi des sculptures pour moi-même. Et c'est devenu une pratique un peu monomaniaque et fatigante parce que j'arrive plus à faire que la même. J'ai fait une sculpture d'une dune. Je fais une dune en sculpture.
La forme d'une dune.
La forme d'une dune, ce qui est hyper dur parce que j'arrive pas à trouver la forme parfaite, exacte de la dune qui existe dans mon souvenir que j'ai vu un jour. Et j'arrive jamais à la recréer parce que je sais pas si soit mon souvenir était flou, soit c'est dur de faire une dune.
D'un autre côté, la dune, c'est un peu la base, c'est quasiment la définition de la sculpture, c'est-à-dire quelque chose d'informel qui sort du sol. Ouais. Et voilà. Quoi.
Et qui ressemble étrangement à une limace, ou à un sein, ou à une prothèse mammaire.
Voilà.
Qui aurait séché en silicone. Et c'est hyper dérangeant parce que c'est très compliqué à faire et que j'arrive à faire que ça. Donc voilà, j'en ai fait à peu près 200.
200.
Ouais, j'ai 200 et il y a à peu près 150 modèles qui sont identiques et il y a 50 autres qui sont de différentes formes et tailles
Et c'est un peu la forme inépuisable aussi en soi, quoi. La dune, c'est juste.
C'est inépuisable et épuisant, quoi. C'est l'enfer.
T'en fais encore aujourd'hui, tout souvent.
Dès que j'ai du temps, j'en fais.
D'accord. Tu les fais avec quoi?
En résine.
Ouais.
En matériaux synthétiques, ouais, en résine, en plastique, en polyester, en silice, poudre de verre et de microsphère, enfin j'ai plein de, mais que en chimie, que en truc de l'industrie du pétrole. C'est un des éléments. C'est jamais un matériau, comment on dit, un matériau naturel. C'est que matériau issu
synthétique.
Synthétique et issu de l'industrie de pétrole. Pétrole machin, pétrolifère.
Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais en train d'écrire une pièce. Infini.
J'écris je te dis tout à l'heure que j'écrivais une espèce de roman infini qui est hyper infini, quoi, fatigant et que j'arrive pas à finir du coup. Mais j'aime bien écrire des trucs infinis comme ça, je peux dire qu'ils sont jamais finis et j'ai jamais besoin de démontrer à personne comme ils sont jamais finis. Et puis quand on me met trop à la pression, ben j'en donne un bout. En disant que ça fait partie d'une œuvre non finie. Et du coup, elle est une. Du coup, je peux toujours le corriger 3 mois après et dire: ah, pardon, je voudrais changer la fin, ou le début, ou le milieu, ou. Sans qu'on sache vraiment si c'est le début, la fin ou le milieu.
Ça me fait penser à notre héros commun qui est. Même si moi je sais que tu travailles beaucoup, hein, et que moi aussi je travaille beaucoup, évidemment. On ne va pas dire à la radio qu'on n'en voit pas une quand même. Qui est Oblomov.
Ah, ça, c'est un sacré héros, effectivement.
Qui est fatigué, quoi.
Qui est hyper fatigué.
Qui est décroissant, quoi.
Complètement régressif, ouais. C'est un vrai héros, quoi.
Ouais.
Il faut que t'expliques ce que c'est, ce monsieur Oblomov, là, ce personnage de ce roman.
Oblomov, c'est une sorte de star, quoi. C'est
star absolu.
C'est le anti-héros parfait d'un roman de la deuxième partie du 19e siècle de Gontcharov, qui est en fait un personnage qui est un grand aristocrate qui passe ses journées au lit à ne rien faire et discute quelques heures dans la journée avec son valet qui a comme mission de lui enlever ou de lui mettre ses bottes parce qu'il doit sortir, ce qu'il ne fait absolument jamais.
Jamais.
Il a tendance à considérer un peu tout le monde autour de lui. C'est pour ça que c'est quasiment de la science-fiction. Il a tendance à considérer tout le monde autour de lui comme des robots. En fait, à force d'être isolé dans sa piole, le monde autour de lui devient complètement déshumanisé. Il n'a aucune empathie pour quoi que ce soit. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est aussi le sacre de l'ère des loisirs, quoi, si on veut. Mais un loisir complètement, tellement absolu et tellement sous-alimenté qui arrive à son paroxysme où le mec ne fait plus rien, en fait. Et que là, à s'écouter lui-même, lui suffit. Et il ne s'en rend même pas compte. C'est le loisir ultime, quoi. Qu'on rêve tous, en fait.
Ouais, c'est le paradis.
D'aboutir à ce point-là.
Ouais. Plus rien, quoi.
Une sorte de méditation absolue. C'est le truc qui est marrant avec Oblomov aussi, c'est qu'il est hyper con, quoi. Il est juste acariâtre avec tout le monde, il est méchant.
Oui, parce que ça aurait pas été cool s'il était intelligent, quoi. C'est un mec intelligent qui reste au pieu toute la journée, putain, c'est chiant. Mais un mec qui est hyper con et qui reste au pieu toute la journée, c'est hyper bien, quoi. Pourquoi tu deviendrais intelligent puis si t'as envie de rester au pieu toute la journée? Autant rester con, c'est super. C'est vraiment total idole.
Voilà, j'avais plein de questions hein, sur Fivel, sur la nuit à Paris et tout ça, sur l'espèce de société décadente qu'on rencontre à Paris.
Mais j'aime bien ta première question.
Ah oui, ça, je peux la poser maintenant si tu veux.
C'est bien de la poser là.
C'est ça va ?
Ouais, pas mal. Ça va pas mal, ouais. Non mais c'est vrai, ouais, ça va pas mal. J'ai pas mal parce que j'ai un peu mal à la tête, ce qui m'arrive une fois par an.
Ouais.
Mais maintenant, mais en fait, si ça marche super bien, quoi, le vin blanc. Ça.
Ah, le vin blanc pour faire mal à la tête ?
Non, pour plus l'inverse. Mal à la tête. J'ai plus mal à la tête.
Ah putain.
Là, je suis presque en sevrage d'ailleurs.
D'accord. Et moi, comme je commence à avoir mal à la tête avec le vin rouge, je vais prendre du vin blanc après.
C'est une très bonne idée.
Voilà, c'est ça le. C'est ça le truc. Après, j'avais prévu des trucs sur Paul Celan, la poésie pour vaincre la peur, des espèces de trucs comme ça, mais on va zapper, mais ce serait peut-être un peu plus intéressant que tu nous lises un petit truc, si tu as un truc sous la main. Mais si tu n'en as pas, tu peux improviser, mais je ne peux pas vraiment le faire à ta place.
Ok. Je peux te dire toutes les notes de mon téléphone portable.
Ouais, ouais, c'est très bien.
Mais que les titres, donc ça va, tu vois.
Ouais.
On va.
Bon, ouais,
je te lis pas les textes, je te lis juste les titres.
Ça fonctionne, c'est ça a l'air bien mieux. Comme ça, ouais.
Parce que le premier, il est super, quoi. Premier, c'est jeudi, droite de lumière. Dimanche, réalisation d'une mince cul. 02-8-2016, ELEC, 15 août. 12-07-2016, 14-36-A, 13-06-2016, 6-A-084, 22-05-2016, XX, 55,2, 140,5e, 400, pays accidenté, 4 filetés de 10, 79, fond d'Harry, pain noir, le pouvoir du moment présent, 8 ppp. Ensuite, j'aimerais bien voir. Ah non, c'est nul 8 ppp. Parce qu'on peut aussi aller regarder à l'intérieur. Ah, ensuite, j'ai plein de musique turque.
Ouais.
Ensuite, j'ai. Ben, on t'a écrit, mais t'as. Mais t'as quoi ? Ben, on t'a écrit, mais t'as pas répondu. Ok, super. Parce que j'essaye des fois. Avant d'écrire des textos, je les essaye dans mes notes pour voir s'ils sonnent bien.
Ah, d'accord.
Et donc du coup, je crois qu'il y a plein de textos là-dedans. Et pays accidenté, l'ancienne X s'étend sous ses yeux, forêt replantée, aménagement du territoire. Et puis la pluie, glissement de terrain.
Ça l'eau. Ressemble assez au texto que tu envoies, effectivement.
C'est complètement un texto que j'envoie, ça. L'eau filtrée jusque dans la nappe phréatique. C'est ça ? La nappe phréatique ?
Oui, tout à fait.
Et ça s'écrit comme ça, P-H-R-E-A-T-I-Q-U-E. Ça
semblerait, ouais.
Ah oui, parce qu'il n'y a pas de truc rouge, sinon quand il s'est souligné en rouge quand c'est pas... Donc l'eau filtrée jusque dans la nappe phréatique, seule sous la pluie, assis là, à contempler le romantique royaume et la boue couler, apprécier la lenteur, et regarde la prendre tout sur son passage. Elle n'oublie personne, la boue et tes souvenirs, et le bonheur, et le malheur, et l'avant, et l'après. Bon, la fin, c'était pas un texto super. Hein. Début, c'est pas mal.
Ouais. Il y a un truc. Il y a une puissance d'évocation qui est assez forte avec simplement les titres, en fait.
Ouais.
C'est un peu la façon dont on regarde les bibliothèques. Et on se dit.
Ah bah ouais.
Voilà quoi.
Mais c'est une grande idée d'avoir la bibliothèque qui fait. Où tu lis juste les trucs et en fait, t'as tout lu, quoi.
Ouais.
Sans rentrer dans les livres. Juste avoir une belle organisation de livres.
Bon, bah, je crois qu'on a presque terminé. J'ai prévu une chanson.
Ah oui.
Qui t'est dédiée aussi, et que j'espère
que
tout le monde va l'écouter très attentivement, parce que c'est une chanson qui me tient vraiment à cœur. C'est une chanson qui s'appelle It Might As Well Be Spring, qui est chantée par Blossom Deary. D-E-A-R-I-E, dans un album qui s'appelle Blossom Deary, qui est sorti en 1956. Et c'est.
Qui est l'année de ma naissance d'ailleurs.
1956. Et c'est particulièrement beau. Et je vais après cette chanson, embrasser chaleureusement Azzedine Salek pour le remercier de m'avoir subi 25 minutes.
C'était parfait.